Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Merci d'écouter Radio Okapi. Il est très précisément 18h à Kinshasa. C'est l'heure de votre journal. Examen aujourd'hui à l'Assemblée nationale de la motion de défiance contre le ministre de l'économie. Il est reproché à Jean-Marie Kalumba la hausse de prix sur les marchés, la distribution en public de l'argent et l'envoi des millions de dollars américains en Namibie pour l'achat des poissons. Accalmie ce mercredi sous les lignes de front au lendemain des affrontements violents entre les FRDC et les rebelles du M23 dans le groupement de Djomba au Nord Kivu. La société civile de Rutshuru affirme que ces rebelles du M23 se sont retirés. Notre invité, c'est le président du Comité national pour la protection des rayonnements ionisants, le professeur Florimo Nyamoga, parle de l'installation de l'antenne au Kasaï oriental et des précautions à prendre pour s'en protéger. Voilà pour les titres, madame, messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Au micro, Pascal Masserica, mise en onde de Jean-Noël Mokondo. De la politique pour commencer, l'Assemblée nationale examine en ce moment la motion de défiance contre le ministre de l'économie nationale. Après la présentation de son auteur, le député Crispin Bindoulé, le ministre a tenté de rencontrer les préoccupations des députés nationaux dans ses réponses. Il a reproché à Jean-Marie Kalumba la hausse de prix sur les marchés, la distribution en public de l'argent. Elle envoie des millions de dollars américains du trésor public en Namibie pour l'achat des poissons chinchards au lieu d'encourager la pêche au pays. Le récit de Michel Kefindangoy.
Avant l'ouverture du débat, le ministre de l'économie a saisi le président de l'Assemblée nationale et la Cour de cassation pour dénoncer un faux en écriture contenu dans la motion de défiance contre lui. Pour tenter de bloquer l'examen de cette motion, le député Maïcha a par motion préjudicielle, sur pied de l'article 78 du règlement intérieur de la Chambre, sollicité un sursis de l'examen en entendant le prononcé de la Cour de cassation. Déterminé à en découdre avec le ministre Jean-Marie Kalumba, l'Assemblée plénière a rejeté la motion préjudicielle et a procédé séance tenante à l'examen de la motion de défiance. Dans sa présentation de la motion, le député Crispin Bindoulé exige la déchéance du ministre, reprocher de distribuer de l'argent en public, la hausse des prix sur le marché et l'exportation des millions de dollars des contribuables vers la Namibie pour l'achat des chinchards au lieu d'organiser la pêche locale. Prenant la parole, le ministre Jean-Marie Kalumba justifie la hausse de prix sur le marché, notamment par la crise en Ukraine. Et c'est sur cette note que le président de l'Assemblée nationale a soumis au vote sans débat la déchéance ou pas du ministre Jean-Marie Kalumba. De Palais du Peuple, Michel Kifindangoy, Radio Okapi.
Flambée des prix des denrées alimentaires ici à Kinshasa. Un bidon d'huile de palme de 25 litres qui coûtait auparavant 45 000 francs congolais revient aujourd'hui à 52 000 francs congolais. Un sac de braise qui s'est vendu auparavant à 23 000 s'achète actuellement à 32 000 francs congolais. La causée de manioc est passée de 70 000 à 120 000 francs congolais. Une rame de chinchard est passée de 51 000 à 58 300 francs congolais au marché Gambela. Ces prix augmentent alors que le taux de dollar n'a pas bougé. C'est le constat fait par Priscilla Bajoko.
Certains vendeurs du marché de Gambela affirment que le gouvernement n'assure pas le contrôle sur la vente de produits par les grossistes.
En tout cas, nous ne parvenons pas à nous en sortir, d'autant plus que le prix augmente au quotidien. Prenons l'exemple du bidon d'huile qui s'est vendu à 92 000 francs congolais. Il y a à peine une semaine, se vend aujourd'hui à 107 000 francs congolais. Il y a donc une augmentation de 15 000 francs congolais. Comment avoir les bénéfices? C'est difficile. On achetait avant 10 bidons, mais aujourd'hui, on ne peut qu'acheter 8 bidons à cause de cette augmentation des prix. Nous sommes en train de souffrir parce que l'État congolais ne contrôle pas les particuliers qui nous vendent les marchandises.
D'autres, par contre, disent que c'est la multitude de taxes qui est à la base de la surchauffe de prix observée ces jours-ci.
Les personnes qui font payer la patente passent, d'autres passent pour faire payer des tickets, la taxe de l'État aussi. Ça augmente chaque jour.
Face à cette hausse continuelle, les ménagères disent éprouver des difficultés pour la survie survie de leur famille.
Nous ne savons plus quoi faire. La radio diffuse des nouvelles, nuit et jour, mais on ne trouve pas toujours de solution. Mais nous sommes en train de souffrir, nous sommes vraiment en train de pleurer. Et il y a de quoi.
Tous appellent le gouvernement à trouver rapidement de solutions pour réduire cette tension que vit la population au quotidien.
L'actualité, c'est aussi la poursuite à Kinshasa du contrôle de marquage des produits pétroliers. Hier, l'Hydro Task Force, mise en place par le ministère des hydrocarbures, a effectué la ronde dans quelques sociétés de la place. Cette phase répressive intervient après une longue période de sensibilisation. Le compte-rendu de Jean-François Mouya.
Cette opération de contrôle a pour but de s'assurer à ce que les différents produits pétroliers mis à la consommation puissent être en ordre avec la fiscalité pétrolière telle qu'exigée par la loi. Des sanctions sont prévues pour tous ceux qui seront surpris en situation d'irrégularité. C'est ce qu'affirme Tony Tchermani, conseiller technique en charge de l'aval pétrolier du ministre des Hydrocarbures.
Authentix est chargé de marquer le produit pétrolier. Ça veut dire lorsque le produit doit aller sur le point de consommation, ça doit être un produit marqué. C'est ça l'option qui a été levée. Le produit marqué, c'est le produit qui a payé toutes les taxes à l'État congolais. Et nous avons l'obligation, nous comme brigade, d'aller sur le point de consommation pour vérifier si le produit mis à la consommation est bel et bien marqué. C'est ça notre rôle, c'est ce que nous faisons. Donc nous sommes venus là, on est chez Orange, l'opérateur procède au prélèvement des échantillons et les laboratoires mobiles est sur place. On les fait séance tenante au lieu du prélèvement et nous avons le résultat là qui nous indique la nature du produit. Si c'est un produit marqué, nous on n'a pas de problème, on constate, on félicite l'opérateur. Et si le produit n'est pas marqué, il est fail, alors là, il y a un barème de sanctions en application actuellement.
Rappelons que l'Hydro Task Force a notamment la mission de mettre en application le barème des sanctions en ce qui concerne les produits pétroliers non marqués.
Partons maintenant pour le Nord Kivu où une accalmie s'observe ce mercredi sur toutes les lignes de front dans les combats qui opposent les FARDC aux rebelles du M23 dans le groupement de Djumba, territoire de Rutshuru. La société civile de Rutshuru affirme qu'au lendemain des violents combats d'hier près de la cité de Bunagana, les rebelles du M23 se seraient retirés. C'est ce que nous explique à Goma Gabriel Ouaménia.
Un calme apparent s'observe jusqu'en fait de la matinée de ce mercredi dans les zones de combat qui opposent les FARDC aux rebelles du M23. Chaque parti engagé dans les combats maintient sa position conquise depuis le début des hostilités. Les FARDC renforcent et consolident leur position à Rangira alors que la cité de Tchengerero, passée sous contrôle des rebelles depuis lundi dernier, reste fantôme. Les rebelles n'y sont plus visibles, affirment les sources dignes de foi dans les territoires de Rutshuru, mais ils maintiennent toujours leur position sur les deux collines stratégiques de Tchanzu. Hier mardi, après de violents affrontements dans les collines surplombant la cité de Bunagana, les FARDC ont réussi à stopper l'avancée des rebelles dans la cité qui est actuellement sous contrôle de l'armée. La société civile de Rutshuru affirme avoir vu des colonnes de militaires des FARDC venir en renfort en provenance de Goma et Beni, ce qui rassure la population. Les responsables de cette structure redoutent cependant ce qu'ils qualifient du désastre humanitaire dans la zone, car la plupart des personnes affectées par ces combats sont dépourvues de tout et vivent essentiellement de l'agriculture. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Okapi.
J'ajoute que l'Union européenne rappelle la reddition immédiate et inconditionnelle des rebelles du M23 et de tous les autres groupes armés en RDC. Dans un communiqué, sa porte-parole dit encourager la saisine des mécanismes de gestion des différents des instances régionales et internationales compétentes. Nabila Masrali demande aux pays de la région de coopérer pour le rétablissement de la paix dans cette zone et invite en même temps les autorités congolaises et les forces de défense nationale et internationale à renforcer au plus vite la protection des civils. Elle rappelle que les attaques de rebelles du M23 contre les positions des FARDC aggravent une situation humanitaire et sécuritaire extrêmement préoccupante. Elle rappelle que le crash d'un avion de la MONUSCO s'ajoute aux récents incidents qui ont fait plusieurs morts civiles et militaires. Nord Kivu encore, le groupement de Djumba et d'autres localités du territoire de Rutshuru sont vidées de leurs habitants. C'est la conséquence des affrontements survenus entre les FARDC et les rebelles du M23 au début de la semaine. Certains déplacés de la zone ont fui vers l'Ouganda, d'autres sont dans des cités plus sécurisées. À Goma, Bernard Denyangi.
Le groupement de Djomba serait à présent vidé à 80% de ses habitants, estime un député provincial élu du territoire de Rutshuru. Emmanuel Ngarouye précise que les localités comme Gikoro, Mukingo, Bunagana et Rubona sont vidées totalement, alors que celles de Nyagasozi et Kibanda le sont partiellement. Les attaques depuis la nuit de dimanche à lundi des rebelles du M23 dans la zone ont aussi touché le groupement voisin de Busanza dans la localité de Mungo. C'est aussi partiellement vidé. Des sources administratives locales à Bunagana estiment à 5000 le nombre de ménages et de déplacés ayant fui vers Kisoro en Ouganda, alors que des milliers d'autres ont trouvé refuge vers Rutshuru Centre, Kiwanja, Kisigari et d'autres villages de Busanza. Ces déplacés ainsi que les familles qui les ont accueillis, vivant pour la plupart de l'agriculture, sont en situation de vulnérabilité, indiquent les organisations locales et de défense des droits humains. Conséquence, la coordination locale de la société civile redoute ce qu'elle qualifie de désastre humanitaire dans la zone et plaide pour l'intervention urgente du gouvernement congolais. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Et puis les corps des 8 casques bleus qui étaient à bord d'un hélicoptère qui était en mission de reconnaissance et qui a été touché hier à Tchanzu sont à la morgue de l'hôpital Level 3 de la MONUSCO à Goma. Il s'agit de 6 Pakistanais, d'un Russe et d'un Serbe. À New York, le secrétaire général des Nations Unies adresse un message de condoléances aux familles éplorées. Antonio Guterres annonce l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. À Goma, Sifa Maguru.
Il n'y a aucun survivant parmi les 8 casques bleus qui se trouvaient à bord de l'hélicoptère Puma qui a disparu et qui s'est écrasé hier dans la journée de mardi. Les corps ont été retrouvés lors d'une opération de recherche et de sauvetage lancée par la MONUSCO. Il s'agit de 6 membres d'équipage du Pakistan et de 2 militaires dont un est originaire de la Russie et le second de la Serbie. Une inspection initiale de l'hélicoptère révèle qu'il a été touché par des munitions. Une enquête sur les circonstances de l'accident est en cours. Dans une déclaration, le secrétaire général des Nations Unies se dit profondément préoccupé par la résurgence des activités du M23 dans la zone trifrontalière entre le Rwanda, la RDC et l'Ouganda, ainsi que l'impact des violences des groupes armés sur les populations civiles. Antonio Guterres réitère l'engagement des Nations Unies à soutenir le gouvernement et les peuples congolais dans leurs efforts pour amener la paix et la stabilité dans les provinces orientales du pays. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Non loin de là, à Ituri, pendant ces temps, 5 militaires et 3 femmes civiles impliquées dans le trafic d'armes et de munitions ont été présentés mardi après-midi au gouverneur de province. Le porte-parole des FARDC dans la province affirme que ces personnes ont été dénoncées par une femme qui a été arrêtée samedi dernier avec plus de 700 munitions sur le tronçon Bambukilo dans le territoire de Djougou. La société civile locale plaide pour la poursuite des enquête afin de dénicher ce réseau qui perdure. Reportage à Bounia, Dizakré Moyopé.
Parmi les militaires arrêtés, il y a un lieutenant-colonel, des majors et des soldats de rang. Du côté des civils, des femmes soupçonnées de faciliter les trafics d'armes avec le groupe armé Codeco sont également aux arrêts. Tous ont été cités par une femme arrêtée samedi dernier avec 700 munitions de PKM et des fusils AK-47 à la barrière des contrôles des FARDC à Nizi sur les tronçons Bunia-Mungwalu. Selon des sources militaires, 4 autres soldats impliqués dans ces dossiers sont en fuite. Ils sont recherchés par les services de sécurité du lieutenant Gilles Ngongo.
Qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions qui sont tombés dans le filet du service de défense et de sécurité.
La société civile de l'Ituri salue cette action des FARDC pour décourager la mafia au sein de l'armée. Cependant, son coordonnateur demande au gouvernement d'approfondir les enquêtes pour dénicher tous les militaires qui sont impliqués dans les trafics d'armes et munitions dans le but de pérenniser la guerre en Ituri. Dieudonné Lossa.
La population a dit plusieurs fois qu'il y avait des militaires suspects. Et même le chef de l'État, quand il est passé ici, il a dit qu'il y avait des maîtres au sein de l'armée. Si on veut arrêter avec le massacre à Ituri, que ces militaires et tous les complices soient dénichés et qu'ils soient condamnés publiquement.
Signalons que ces militaires et civils sont mis à la disposition de la justice militaire. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, pas de cérémonie solennelle pour la rentrée parlementaire au Koulou à cause du décès par accident de 3 députés provinciaux sur la rivière Mohama Indombe. Les travaux reprendront après l'inhumation des infortunés. Le président de l'Assemblée provinciale du Koulou appelle les élus à la sérénité. Serge Makongo a été joint par Irène Boma.
La session sera ouverte, mais par un communiqué officiel. Puisque, comme vous le savez, nous sommes endeuillés. Nous avions perdu 3 de nos collègues. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore enterrés, nous ne pouvons pas organiser une ouverture solennelle. Donc, pour cette raison, nous procédons par un communiqué officiel et nous allons reprendre les travaux dès que nous allons enterrer nos collègues qui sont morts par accident. Donc, la cérémonie officielle ne sera pas faite, mais nous allons le faire par un communiqué officiel. Vu l'état de délabrement des corps, qui sont déjà presque en décomposition, nous avions jugé, bon, avec les autorités centrales, que nous puissions les enterrer ici à Kinshasa. Et le message pour tous les députés, puisque pour le moment, tous les députés provinciaux du Kwilu sont ici à Kinshasa pour organiser les deuils de leurs collègues, parce que je peux leur dire que nous soyons toujours sereins.
Actualité internationale.
Au Tchad, le syndicat des magistrats appelle à une grève illimitée après l'agression d'un juge à Moa dans le nord du pays. La corporation affirme à la presse que depuis le début de la grève, d'autres magistrats du pays sont agressés. Elle demande par conséquent aux justiciables d'attendre la reprogrammation de leurs audiences. En Guinée, c'est une double sanction dont l'annonce a fait sensation ce mercredi après-midi. Elle vise notamment 2 hauts responsables qui avait affiché indifférent sur la place publique. Il s'agit notamment du président de la cour d'appel de Conakry et le haut commandant de la gendarmerie.
L'invité.
Notre invité, c'est le président du Comité national pour la protection des rayonnements ionisants. Le professeur Florimond Nyamuga parle de l'installation de l'antenne de cette structure au Kasaï oriental et des précautions à prendre pour s'en protéger. Il s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, professeur Florimond Nyamuga. Vous êtes le président du Comité national de protection contre les rayonnements ionisants. Vous êtes en mission en Bujimaï pour installer le comité provincial. Avant tout, nous voulons savoir c'est quoi les rayonnements ionisants. C'est quoi?
Les rayonnements ionisants, ce sont les rayonnements qui ont des effets négatifs sur la santé et l'environnement de l'homme. Même dans la nature, il y a des rayonnements ionisants. Mais il y a des seuils qu'il ne faut pas dépasser de ces rayonnements pour que l'homme et l'environnement soient en bonne santé. Et c'est pourquoi nous sommes là pour protéger l'homme et son environnement pour que ces rayonnements ionisants ne puissent pas dépasser les seuils requis par la science. Les rayonnements ionisants peuvent être émis par n'importe quoi, même les sols, même la nature, même l'atmosphère. Mais maintenant, il y a des entreprises qui utilisent des sources radioactives. Et ces sources radioactives projettent des rayonnements ionisants, mais à un seuil très bien élevé. Alors nous sommes là pour essayer d'encadrer ça, de protéger, enfin de ne pas nuire à la santé de la population.
Et y a-t-il des personnes exposées aux rayonnements ionisants dans la ville de Mbujimaï et dans notre province?
Nous croyons qu'il doit y avoir des rayonnements ionisants quelque part, parce qu'il y a des entreprises minières ici dans les Kasaï-Orient. Et nous savons très bien que les entreprises minières utilisent des sources à rayonnements ionisants qui sont des sources radioactives, qui sont protégées et qui sont régulées par nous, Saint-Péry. Donc nous devons tout faire pour aller voir comment ça fonctionne, si ces travailleurs-là sont protégés et si ces sources-là sont bien encadrées pour qu'ils ne puissent pas nuire à la santé de la population. Non seulement ça, les entreprises minières, mais les hôpitaux qui utilisent des radios, par exemple, qui projettent des rayons, les XR, que nous appelons les rayons X. Tout ça, ce sont des sources à rayonnement ionisant qui peuvent nuire à la santé de la population. Et nous sommes là pour réguler tout ça, encadrer, pour voir s'ils remplissent les normes où ils mettent les rayons X pour que ça ne puisse pas atteindre la population pour nuire à leur santé.
Quels sont les effets négatifs ou positifs des rayonnements ionisants?
Il y a beaucoup d'effets négatifs. Nous avons vu des enfants qui naissent par malformation. Les gens peuvent avoir des problèmes de santé physique jusqu'à mourir même, à être contaminés et jusqu'à mourir, à perdre leur vie à cause des effets nocifs. Voilà pourquoi il est important de les encadrer et de réguler, en fait, que nous puissions protéger la population.
Et qu'est-ce qui peut être à la base de ces rayonnements ionisants?
Toute chose produit des rayonnements ionisants, mais à faible dose. Je vous ai amené l'appareil qui quantifie la quantité des rayonnements ionisants. Il y en a même dans l'atmosphère, mais à faible dose. Par exemple, si nous mettons cet appareil-là, il va vous donner les microsévères, 0.1, tout ça. C'est qu'il y a quand même les rayonnements ionisants. Ça, c'est produit partout. Les soleils, la lune, les plantes, tout ça, mais à faible dose. Et maintenant, c'est quand ça commence à projeter plus de doses que ça devient dangereux pour l'homme.
Et comment nous pouvons lutter contre les rayonnements ionisants?
Justement, nous sommes là pour lutter contre ça. C'est-à-dire que nous devons protéger d'abord l'homme, là où il travaille. S'il y a des projections des rayonnements ionisants qui dépassent les seuils normaux, nous devons encadrer et voir, par exemple, les sources radioactives qui en produisent. Nous pouvons les enfermer quelque part, les protéger, puisqu'il y a quand même des couvertures très bien appropriées en aluminium, en métal, à toutes ces choses-là. Les fermer, par exemple, dans des boîtes bien déterminées, bien précises, selon les normes de la convention internationale, ou en fait s'éloigner davantage de ces rayonnements. Nous pouvons aussi encadrer les travailleurs et surtout les boss qui utilisent les agents pour qu'ils ne puissent pas les exposer longuement à ces rayonnements ionisants.
L'antenne provinciale que vous venez d'installer a-t-elle des matériels pour faire ce travail?
J'ai amené les plus grands matériels dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est les détecteurs des rayonnements ionisants. Donc ça va détecter partout où nous nous trouvons les nombres exacts de la projection des rayonnements ionisants. Donc le matériel est là et il y a surtout des formations que nous allons faire pour leur apprendre à comment détecter toutes ces choses.
Professeur Florimo Nyamoga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'était l'invité de Radio Okapi, le président du Comité national pour la protection des rayonnements ionisants. Le professeur Florimo Nyamoga était interviewé par Esther Ndalafina et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Retrouvez-les sur www.radiookapi.net.